Chapitre 58. Après avoir dit bonne nuit d'abord à Valeria au Brésil, puis à Lumi en France, Yuna s'assit à son bureau et regarde les toits de la ville sous le ciel noir de décembre, les fenêtres décorées de chandeliers de l'Avent et les balcons ornés de lumières de Noël et de branches de sapin. Il prend des notes en lisant les rapports de ses collègues sur les interrogatoires des proches et amis de la victime et sur les déclarations des voisins. Puis, il examine les photos et les rapports de la scientifique. Yuna appelle Saga, qui répond au bout de 7 sonneries. « Comment ça va ?» lui demande-t-il. « Bien. » « Tu sais que je suis obstiné et je continue de harceler Noah pour t'avoir comme partenaire. « Merci, mais ça va pour moi avec mon travail au bureau, » dit-elle. « Vraiment ?»« Non, mais je pense que je ne suis peut-être pas faite pour le terrain. « Mais si, bien sûr que si. « Je sais plus. » « Saga, tu me manques, » dit Yuna. « Qu'est-ce que tu fais demain soir? Je peux préparer un dîner et te faire un point sur l'affaire. » « Désolé, je peux pas, » répond-elle un peu trop vite. « Une autre fois, alors ?»« Désolé, » murmure-t-elle d'une voix plus douce. « Mais je n'arrive pas à voir des gens en ce moment. J'arrive à peine à me voir moi-même. » « Tu sais que tu peux toujours m'appeler. »« Merci, Yuna, » répond-elle. Il raccroche, et Yuna réfléchit au fait qu'elle a du mal à socialiser, tandis que lui souffre de la solitude. Il est tard, mais plutôt que d'aller se coucher, il range son arme dans son coffre, dépose sa carte de police sur la commode, quitte l'appartement et descend jusqu'au garage. Il roule jusqu'à Yurtagen, dans le calme de la banlieue, gare sa voiture et fait le tour du quartier avant de rejoindre la longue file d'attente devant le club Sona. À 4 heures, il fait si chaud sur la piste de danse que tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'enlever ses vêtements et de se rouler dans la neige, a écrit un DJ connu sur Instagram. Les gens sont habillés avec classe et extravagance. Ils ont des voix un peu éméchées, rient et jettent des regards envieux vers l'entrée. Il est évident que le quartier est en pleine transformation. Mais entre la fin des déménagements et le début des rénovations, l'espace laisse place à des activités temporaires. Le club est situé dans un grand bâtiment avec une façade en briques sale et sans fenêtres. Agneta lui a dit qu'Olga Wojciech travaillait dans un club privé appelé Red Drum. Pour y accéder, il faut traverser le sauna, sortir dans une cour intérieure, passer devant un garde de sécurité et entrer dans un autre bâtiment. Yuna voit Stina Linton tourner au coin de la rue et lui faire signe. Elle a enlevé ses lunettes, a mis de petits élastiques jaunes fluo dans ses cheveux, peint ses lèvres en rouge et échangé sa tenue de bureau contre un jean noir et une fine veste en cuir. « Très classe, » lui dit Yuna. « J'en ai profité, » sourit-elle. Le son lourd des basses résonne chaque fois que la porte s'ouvre pour laisser entrer quelqu'un, comme des effluves envoûtants, irrésistibles. La file d'attente avance rapidement le long des barrières métalliques, presque aussi vite qu'elle se remplit. Yuna et Stina réussissent à entrer. Avant de se diriger vers la piste de danse, ils passent à la caisse, signent une liste d'adhésion symbolique, franchissent un détecteur de métaux et sont fouillés. Le rythme des basses cogne dans leur poitrine alors qu'ils se fraient un chemin dans la foule des danseurs éclairés par un stroboscope rose. L'air est chaud et humide. Un sapin de Noël doré trône au centre de la scène surélevée. Yuna emmène Stina derrière un bar jusqu'à une porte en plexi noir, puis pénètre dans le couloir menant aux toilettes. Le carrelage en damier est humide. Une odeur d'urine et de vomi flotte dans l'air. 5 femmes attendent leur tour. Un homme au visage pailleté somnole dans un coin, un chapeau rouge en aluminium défraîchi posé à côté de lui. Il longe une série de fûts de bière en métal mat. Quelqu'un cogne contre le mur. Yuna ouvre une porte en métal au bout du couloir, laissant pénétrer un courant d'air froid. Ils descendent une échelle métallique qui mène à un terrain vague plongé dans l'obscurité. Le sol est jonché de briques, de verres brisés, de pneus et de cartons détrempés. Une femme aux cheveux roses est accroupie. Elle fume de l'héroïne derrière un tas de béton et de barres d'acier tordues. Devant la porte du bâtiment qui abrite le club Red Drum se tient un homme vêtu d'un pantalon militaire noir, d'un gilet pare-balles et chaussé de bottes. Il mesure au moins 2 mètres, avec des épaules larges et doit peser plus de 100 kilos. Il tient un Colt 933, un fusil d'assaut moderne avec une crosse repliable. « Stop !» dit-il calmement en fixant Yuna. « On vient voir Olga Wojcik, » dit Yuna. « Non. »
« Vous la connaissez ?»
demande Stina. « Je vous conseille de retourner dans le club, » dit le videur. « Pouvez-vous aller chercher Olga ?» demande Yuna. « Non. »
« C'est important, » explique Yuna en faisant un pas en avant.
« Vous ne passerez pas, » dit le videur en déplaçant la barrière de sécurité. Yuna aperçoit un tatouage représentant une libellule et une épée sur l'intérieur de son poignet.
« Nordvik, » dit Yuna.
« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demande le videur. « Tu as été entraîné par Renus Advocat.
J'ai donné 10 ans de ma vie pour ça, mais j'ai été recalé avant d'aller aussi loin que...
Attends. T'es Yuna Lina, non ?»«
Oui. »«
Putain !» marmonne-t-il en regardant Yuna. « Tout le monde parlait de toi. »«
Non, ça m'étonnerait. »«
Yuna Lina !» dit-il en secouant la tête avec un sourire.
« On doit entrer. »
« Je vous laisse entrer et je vous laisse sortir. Mais moi, je reste ici. Ils ont ma petite sœur. »
« Il se passe quoi là-dedans ?»«
Je sais pas et je veux pas savoir, » dit-il en leur ouvrant la porte métallique. Ils entrent et la porte se referme lourdement derrière eux. La lumière verte d'une sortie de secours éclaire un couloir avec du lino et des papiers peints à médaillons déchirés. Des gouttes de condensation brillent le long d'un tuyau au plafond. Yuna sent une migraine aiguë monter derrière son œil. Stina écarte nerveusement quelques mèches de cheveux. Ils avancent. Des cris aigus résonnent derrière les murs. Un tampon ensanglanté et de longues bandes de papier toilette traînent par terre. Ils se rapprochent d'une porte entrebâillée d'où émane une lumière grise. Un homme à la voix grave hurle avec agressivité au loin. Yuna avance prudemment et découvre une petite salle de contrôle. Il ne voit personne, mais une fine colonne de fumée s'élève d'une cigarette posée dans un cendrier. Un grand écran diffuse 8 flux en direct. À travers une fenêtre sale donnant sur un studio, des webcams filment 2 des cabines. Un garçon nu, au visage apathique, est assis sur un banc de musculation dans une flaque de sang. Son corps mince est couvert d'hématomes plus ou moins récents.
« Mon Dieu !» murmure Stina en saisissant son téléphone.
Un homme immense au visage tatoué se tient devant lui avec une arme à feu posée contre son front, tandis qu'un autre lui frappe les cuisses avec un gros godemiché. Ils poursuivent leur chemin pendant que Stina explique la situation d'une voix basse au central et répète que c'est urgent.
« 10 minutes. Ils seront là dans 10 minutes, » dit-elle à Yuna.
Ils passent la porte métallique du studio, traversent un petit vestiaire avec des piles de baskets, de vêtements et de sacs. Le couloir est sombre. Des voix énervées retentissent derrière eux. Des bouteilles de vin vides et une batterie de voiture sont posées contre le mur. Yuna croise le regard de Stina. Elle semble effrayée. La porte suivante est bloquée par un journal coincé au-dessus des charnières inférieures. Yuna regarde à l'intérieur. Une lampe sur pied sans abat-jour éclaire une pièce vide avec une moquette pleine de déchets, de vieux pop-corn et des lunettes écrasées. Dans un canapé en jean taché, Olga est assise avec un jeune homme. Elle porte une robe argentée moulante et des sandales à talons hauts. D'une voix absente, elle dit que tout va bien se passer, qu'il pourra envoyer de l'argent à sa famille, tout en mangeant une salade dans une petite boîte rouge. Olga lève les yeux vers Yuna avec un regard éteint. Un de ses yeux est enflé et ses cheveux décolorés laissent apparaître des racines sombres. Elle se frotte la bouche d'une main, tandis que l'autre tient la boîte qui laisse dépasser une fourchette.
« Olga, » dit Yuna en s'approchant d'elle, « on est de la police, et on a besoin de...
Yuna !
Christina. Un homme corpulent avec des chaussons en plastique, un pantalon de sport et un débardeur trempé de sueur tendu sur son ventre, surgit et plante un couteau dans le dos de Stina. Yuna attrape la fourchette d'Olga et pivote. Dans un mouvement rapide, il la plante dans le cou de l'homme, la retire, puis le frappe à nouveau. Du sang éclabousse les épaules poilues de l'homme qui lâche le couteau, titube en toussant, et renverse la lampe sur pied. Stina tombe à genoux. Un homme au visage tatoué fait irruption, arme levée. Un coup part. La balle frappe le mur de briques derrière eux. La poussière de mortier éclate autour de l'impact. Yuna retire le couteau du dos de Stina et le plante dans le sternum de l'homme avant qu'il n'ait le temps de tirer à nouveau. Celui-ci fait un pas en arrière, confus. Yuna prend le pistolet et le braque vers la porte au moment où un troisième homme arrive. Celui-ci lève les mains et recule. Les jambes de l'homme tatoué se dérobent sous lui et il s'effondre lourdement sur le sol. Autour du couteau, son torse est maculé de sang. Yuna garde le pistolet pointé vers l'entrée tout en aidant Stina à se relever. L'homme aux épaules poilues est penché sur un frigo Coca-Cola et du sang s'écoule de sa bouche et de son cou. « Olga, tu viens avec nous !» dit Yuna. Le jeune homme reste assis sur le canapé, les pupilles dilatées, et regarde Olga se lever. Yuna quitte la pièce, sécurise le couloir et leur fait signe de le suivre. Ils marchent aussi vite qu'ils peuvent, passent devant la salle de contrôle, continuent vers l'enseigne lumineuse de la sortie de secours. Des cris et des pas lourds résonnent derrière eux. Ils sortent dans l'air froid du terrain en ruine. Le bruit des pales d'un hélicoptère se rapproche. Le videur à la carabine automatique les observe sans dire un mot. Ils traversent la cour intérieure et Yuna aide Stina à monter les marches en métal tout en tirant Olga derrière lui. Ils se précipitent sur le carrelage humide, passent devant les toilettes, franchissent la porte noire et arrivent sur la piste de danse bondée. La musique gronde. Yuna dissimule son arme contre sa jambe, reçoit un baiser de la part d'un homme baraqué et se dirige vers la porte d'entrée. Le portique bip à leur passage. Le videur se pousse quand Yuna braque son arme sur lui. Ils quittent le club et sortent dans l'air glacé en longeant la longue file de fêtards. Les sirènes des véhicules de secours se rapprochent. Tandis que la police fait une descente dans le club, Yuna attend à l'arrière d'une voiture de patrouille, Olga à ses côtés. Le poumon droit de Stina a été perforé et ses lèvres commençaient à devenir bleues quand les ambulanciers l'ont prise en charge. Au moins 10 voitures de police et un véhicule de commandement sont sur place, accompagnés de 4 ambulances et d'un camion de pompiers. La lumière bleue flotte tristement sur les façades en briques sombres. Un hélicoptère de police survole les toits. Yuna a tué l'homme au visage tatoué. Encore un corbeau qui se pose lourdement dans l'obscurité de son âme. Il passe sa main dans ses cheveux et regarde le visage étrangement symétrique d'Olga, si ce n'est son cocard. Les opioïdes commencent à quitter son corps. Son mascara a coulé et elle respire avec difficulté.
« Yatsek va me tuer », répète-t-elle.
« Olga, écoute, » dit Yuna. « Je mène une toute autre enquête et tu as été appelée pour un interrogatoire. »«
Je sais, mais je peux pas parler à la police, tu comprends ça ?»
Mais maintenant, tu le fais quand même.
J'ai vraiment le choix.
Elle serre les lèvres et respire par le nez. Quand Hugo a fait une crise de somnambulisme chez toi et que tu l'as réveillé parce qu'il était sur le point de se jeter par-dessus le balcon, il a commencé à parler du camping de Bredeng, dit Yuna.
Il était en pleine crise.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Qu'est-ce qu'il a dit ?
J'étais assez choqué, et il était très incohérent. Il parlait de la porte de mon balcon, de la serrure, du couteau, de la neige qui tombait sur les emplacements des tentes et des caravanes sombres. Je sais pas, j'ai essayé de le calmer.
Il a vu le meurtrier?
Je pense pas. En tout cas, je l'ai pas compris comme ça, mais je sais qu'il a dit quelque chose à propos d'une dent sanglantée avec un plombage en or.
Olga marmonne quelque chose en polonais lorsqu'une série d'hommes menottés sont traînés dehors par la porte du club.
Les ambulances se remplissent de jeunes avec des blousons sur les épaules. Yuna pense qu'il est temps de remettre Olga à ses collègues et de rentrer chez lui pour dormir. Presque personne ne sait que le tueur en série a prélevé 2 dents sur sa victime. Ce qui signifie que,
derrière ses cauchemars, Hugo a réellement vu ce qui s'est passé et qu'il a, au moins temporairement, enregistré des détails.